Lire.
Bonjour Aline Lévy.
Bonjour Michel.
Vous nous présentez aujourd'hui, on l'a annoncé en diverses occasions, j'ai un peu dit roman, mais en fait effectivement, je l'ai un peu feuilleté, ça n'a rien d'un roman. C'est un récit, c'est peut-être bien autre chose d'ailleurs. En tout cas, le titre en est « Devenir prêt ». C'est écrit par Antoinette Richner. Bonjour Antoinette.
Bonjour.
Et c'est édité par les éditions d'autre part.
Exact. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir, Antoinette Richner, parce que j'avais déjà beaucoup aimé votre premier roman, Le Prix, sorti chez Buchet-Chastel en 2015. Un livre pour lequel vous aviez notamment reçu le prestigieux prix suisse de littérature. Alors, c'était effectivement votre premier roman, mais de loin pas votre première publication, parce que vous avez déjà beaucoup écrit, même si vous avez seulement 37 ans, écrit pour le théâtre, écrit des nouvelles, des critiques, et vous êtes sortie de la première volée de l'Institut littéraire de Bienne. Et avec ce livre-là, Devenir prêt, c'est une autre performance. C'est un livre comme un œil grand ouvert sur un pré, oui, un pré, ce rectangle vert qui borde la route et auquel on ne prête d'ordinaire aucune attention. Et je parle à dessein de performance parce que pour composer cet ouvrage, vous avez pris le temps d'examiner la nature, mais aussi de vous examiner vous-même dans une forme d'introspection. Et vous vous êtes installé pendant une année, chaque jour, dans une roulotte qui est devenue votre bureau pour décrire, pour écrire ce qui se passait devant vos yeux et dans votre tête. Alors vous êtes neuchâteloise, Antoinette Richner, et c'est pas un détail aujourd'hui parce que sans cela, ce livre-ci n'aurait pas existé puisqu'il est né d'une demande de l'association neuchâteloise pour l'aide à la création littéraire. Expliquez-nous un peu tout ça.
Alors, effectivement, j'ai eu de la chance parce que j'ai bénéficié d'une commande, une bourse commande, qui émanait de l'AACL, qui est une association pour le soutien à la création littéraire dans le canton de Neuchâtel. Et donc, chaque année, il y a un boursier, une boursière qui bénéficie de ce programme-là. Et la seule contrainte, c'est de mentionner d'une manière ou d'une autre, ça peut être très allusif, un lieu du canton de Neuchâtel. Et il se trouvait que moi, j'avais déménagé assez récemment dans le Val-de-Ru, à Valangin en fait. Et on a rénové une maison avec mon compagnon. En fait, il me manquait un espace, un peu la fameuse chambre à soi de Virginia Woolf. L'espace un peu tranquille, un peu privé, un peu à part, pour me concentrer, pour travailler. Et je suis tombée sur une roulotte de chantier d'occasion à vendre que j'ai achetée, et puis on l'a retapée, on l'a installée sur le terrain.
Vous l'évoquez d'ailleurs dans le livre, cet épisode de retaper la vieille roulotte.
Oui, j'ai raconté comment je l'avais dénichée, comment on avait travaillé pour la retaper, parce que c'était rigolo, et puis que ça créait une petite bulle un peu de narration, de récit, d'histoire dans ce corpus de texte qu'on arrive justement pas trop à définir. Est-ce que c'est un journal, la poésie?
Parce que c'est nécessaire de temps en temps, Antoinette Richner, de revenir au récit, enfin, d'intégrer du récit, de se raccrocher au récit et d'échapper un peu à cet état de méditation, d'introspection.
En tout cas, pour le lecteur, je trouve que ça peut être sympa d'aménager un petit peu ça. Enfin, je me rappelle par exemple d'un livre d'Odile Cornu que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Pourquoi veux-tu que ça rime ?», qui est en fait entièrement composé de questions. Puis cette radicalité-là me plaît beaucoup. Mais de temps en temps, il y a des petites histoires quand même, des petites modules de narration. Et puis j'avais bien aimé ça. Donc je me suis dit,
C'est pour le lecteur ou c'est pour l'auteur? Pour sa santé graphique, littéraire.
De mon point de vue à moi, c'est peut-être la nécessité de revenir à l'origine de ce lieu. Qu'est-ce que c'est que cette roulotte? Le fait qu'elle a eu une histoire avant d'être un lieu d'écriture, ça a servi à autre chose. C'était une roulotte de chantier, c'était un autre monde. Et voilà, de raconter un peu la renaissance.
La genèse aussi de tout ça.
Oui. Ouais.
Et donc vous étiez pendant un an assise dans cette roulotte, devant chaque jour, face à ce pré. Et j'aimerais savoir si ces contraintes que vous vous êtes imposées, est-ce qu'elles sont très importante pour faire naître l'écriture, pour inventer un récit? Est-ce qu'elle joue un rôle?
En tout cas, le fait de se limiter, je pense que ça peut générer, ça peut aider en fait à ouvrir, ça peut aider à aller plus loin. Le fait que justement le paysage soit cadré comme ça par ces montants de fenêtres, ben voilà, on va regarder ce qu'il y a là et puis pas ailleurs.
Mmh. Et puis c'est comme un journal intime de contemplation. Dans devenir prêt, très vite le lecteur entre en contact avec l'infiniment petit, le vol des insectes, un petit escargot, le vent dans les branchages. Et puis il y a ce ciel au-dessus du pré où il se passe infiniment de choses. Et puis les saisons qui passent, etc. On assiste à tout. C'était là vraiment votre intention, de faire un journal comme ça de contemplation, une sorte de méditation littéraire.
Oui, tout à fait, c'était l'intention. C'était d'avoir les yeux bien ouverts, les oreilles aussi, les narines. Voilà, donc c'est aussi ce qui a donné lieu à ce titre, Devenir prêt. Ça veut dire être tellement dans la perception que finalement on se dissout dans ce qu'on voit, être un élément de la nature aussi, se fondre dans son environnement. Et puis je pense que c'est pas toujours possible d'arriver vraiment à un bon état d'observation.
Mais c'est ça, en fait, très vite, votre titre m'a fait penser à l'un des ouvrages de Frédéric Pajac qui était consacré à Walter Benjamin, qui s'intitulait Le rêveur abîmé dans le paysage. Donc cette idée, comme ça, de vous fondre dans ce pré, est-ce que c'est votre regard qui fait ce pré, cette subjectivité qui fait ce pré? C'est une sorte de, vous savez, comme Duchamp disait, le regardeur fait le tableau, un rapport, comme ça, d'égal à égal avec ce pré, ce paysage?
Oui, je pense qu'il y a un petit paradoxe parce que j'ai évité le jeu autant que possible. Puis c'est vrai que j'ai parfois laissé transparaître des éléments de ma vie, mais assez peu. Et en même temps, oui, c'est moi qui crée ce regard-là parce que c'est moi, c'est ma subjectivité qui sélectionne les éléments. Parce qu'il y a une infinité d'éléments, même que c'est toujours le même prix. À chaque moment de la journée, à chaque saison, il y a toujours d'autres choses à raconter. Donc on pourrait écrire. D'ailleurs, j'ai écrit certains jours des pages, et puis il a bien fallu sélectionner. Donc déjà dans le moment d'écriture, d'observation, ça passe par moi. Et puis après dans le retravail, ça, évidemment que moi j'ai aussi reformé tout ça.
Vous avez dû beaucoup couper ?
Oui, beaucoup. Ah, beaucoup. Mm-hmm. Et puis j'étais pas. Enfin, si je compare par exemple à un livre contemporain qui a ses voisins dans ce concept d'immersion et de captation, qui est Carnet du lac de Ariane Eppard, où elle l'écrit pendant un an. D'ailleurs dans la même période temporelle de juin à juin. Et donc effectivement il y a quelque chose de similaire, mais je pense qu'elle est beaucoup plus radicale dans la notation pure. Et je l'ai entendue dans un interview où elle disait qu'elle avait assez peu toiletté, comme elle disait, et que ça n'avait pas pour, en tout cas c'est ce qu'elle dit, de vocation littéraire, alors que pour moi clairement ce livre il a une vocation littéraire. Et je l'ai en fait beaucoup toiletté, plus que toiletté, je l'ai beaucoup retravaillé parce qu'il a fallu effectivement sélectionner dans une grande matière, un gros volume, et puis aussi à un moment donné se poser des questions de composition et quand même justement de narration, parce que au bout du 10e jour de brouillard, ça serait quand même lassant. Donc comment pouvoir réserver des surprises, travailler sur les fréquences des récurrences, des choses qui reviennent, les répétitions, comment, quand, comment on raconte ce qui évolue. Par exemple un cadavre de campagnol qui a été bouffé par le chat, je le montre plusieurs fois dans les étapes de décomposition, à quel moment je les amène et comment je tricote ça. Et puis il y a eu une étape importante pour ça, c'est qu'au début j'avais chaque fois les dates et puis même les températures, et je notais chaque fois les heures à la minute près pour chaque notation. Mm-hmm. Et à un moment donné j'ai lu un autre livre contemporain qui m'a pas mal inspiré, de Rick Bass, un Américain qui vit dans le Montana, donc il a décrit aussi une année depuis sa cabane forestière. Il décrit la nature, et lui il ne met pas de date du tout, il a juste mis le mois dans lequel ça se passait. Et ça a été un déclic, je me suis dit, je vais faire sauter toutes ces dates, toutes ces températures, et je me suis retrouvée plus qu'avec une matière première. Et là du coup j'ai pu séparer les segments rien qu'avec une petite astérisque, et ça m'a permis de retricoter le tout, justement de me lâcher un peu. Tant pis, ça s'était arrivé deux jours plus tard, et je m'autorise à le mettre à cet endroit-là parce que ça fonctionne mieux et que le résultat est plus chouette à lire.
Mais d'ailleurs, ce livre, au-delà d'être une observation, c'est aussi une exploration de vous-même. Vous écrivez vos moments de doute, de fatigue, vous écrivez même le jour de votation, le jour de ménage, le café fumant. C'est donc une contemplation incarnée que vous avez voulu faire. Il y a beaucoup de vous.
Oui, il y a de moi. En fait, je pense que ces notations qui sont dans le quotidien, qui sont un peu triviales parfois, ça aide aussi à donner de la réalité. Enfin, je pense que c'est une tension qu'il y a un peu dans tout ce que j'écris, entre quelque chose de poétique, quelque chose d'une aspiration vers le haut, et puis un ancrage quand même dans le sol et dans la réalité quotidienne. Et puis là, ça s'est trouvé aussi. Bon, après, évidemment, il y avait quand même la question jusqu'à quel point il faut en faire un petit recueil complètement radical et puré qui soit que dans la notation poétique.
C'était une
ça
tentation.
Une option. Ouais. Oui, oui. Mais je dois aussi rendre justice à mon éditeur. Parce que donc c'est Pascal Rebetier avec qui Absolument. J'ai travaillé, qui avec Jasmine Liardet co-dirige les éditions d'autre part. Et l'autre fois, j'ai entendu une critique du livre radio où Eleanor Sulzer, critique littéraire, disait « Ah ben, si j'avais été l'éditeur, j'aurais demandé un petit peu d'élaguer justement ces éléments qui font pas partie des notations poétiques. »
Alors que c'était précisément le contraire ?
Ben en fait, Pascal, lui, il m'a vraiment demandé de le faire, ça je dois le dire.
Donc il vous a aidé à vous ancrer en fait dans la réalité ?
Non, il m'a dit « Enlève ces notations sur peut-être... sur toi-même ou sur la condition de l'auteur, par exemple, ça, lui, il aurait supprimé. Okay. Dans un premier temps, je l'ai écouté, je l'ai fait, puis après, en fait, j'ai fait un peu un virage, je suis revenue en arrière et j'ai réintroduit ces éléments-là, parce que, pour moi, du moment que c'était explicitement annoncé comme un lieu d'écriture, ça se justifiait, ça avait sa place de parler du métier. Mais c'est vrai qu'après, il y a ce genre de notation sur la condition de l'auteur, puis il y a aussi des notations politiques ou des inquiétudes sur l'environnement.
Absolument.
Sur l'actualité. Donc oui, c'était une grosse question, mais je crois que, à l'origine, mon projet, c'était quand même de créer pour le lecteur un espèce de petit cocon, parce que je pense que ce flux d'actualité, d'information qu'on a, il est quand même anxiogène, et puis j'avais envie d'aller un peu protéger, entre guillemets. Mais si j'avais été à 100% là-dedans, ça aurait été malhonnête de ma part.
C'est ça, c'est un lieu qui reste perméable au temps qui passe et à la réalité.
Moi, je suis une inquiète, il ne se passe pas un jour sans que je me dise « mais qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de l'humanité ?» Donc si je n'avais pas laissé un petit peu transparaître ça, ça n'aurait pas été juste non plus, je pense.
Écrire jusqu'à se dissoudre, poursuivre en lieu clos une abstraction de pureté, un minuscule cosmos, ou peaufiner tranquillement cohérence, pensée. Tiens, celle par exemple selon laquelle les plus défavorisés n'ont pas à être punis d'être nés. Que permet la solitude? Que découle du contact avec le nombre? L'une compte-t-elle pour moins de réalité que l'autre? Qu'est-ce que voir et qu'est-ce qu'agir? Et que signifie vraiment l'absence d'agressivité? Que valent nos volontés de paix? S'occuper à écrire, le nez plongé sur le clavier, le relevé soudain de vache porte sur ce qui a lieu un regard fixe, intense, mais sans qu'on puisse déceler, tandis que les mouches circulent le long des museaux, une quelconque expression, ni savoir s'il y aurait désapprobation. Suite à une maladresse, le Larousse étymologique et historique du français tombe de l'étagère, choc du volume sur le plancher, les bovins détalent. Des feuilles cartonnées volent contre la fenêtre. Une grosse bourrasque saisit la roulotte, la fait tanguer. Les branches de l'aune se cabrent, excédées, griffent contre le toit. Souvenir troublé de cette nuit, lune divisée, partiellement noircie et auréolée de rouge. Cette éclipse mal observée, faute, dans le demi-sommeil, de mettre la main sur ses lunettes. dans le cadre du milieu droit, deux champignons blanchâtres, l'un encore conique, l'autre largement ouvert, allure de l'épiote, mais inutile d'aller leur tripoter lamelles ou leur casser chapeau. On les laissera à leur intégrité, ces étrangers stationnaires, rigides sous les assauts du vent, concernés aussi peu par le sort des graminées et des herbes que s'ils relevaient d'un espace-temps parallèle. Merci à Maurice Ravel pour l'immobilité intranquille de la nature de sa musique et voilà, de l'espace et de l'air qui circule. Et c'était évidemment un extrait de Devenir prêt d'Antoinette Richner.
Exact. Et je vais rebondir sur votre très beau mot d'immobilité intranquille pour vous parler de cette immobilité comme une prison. Et je cite un passage de votre livre. Vous écrivez, l'endroit atteint un tel degré d'idyllisme qu'il fait monter un désir forcené, lancinant d'être n'importe où ailleurs. Donc ce prêt, Antoinette Richner, cette nature si belle, elle devient presque une fiction insupportable parfois.
Oui, je pense qu'on pourrait étendre ça même à la Suisse, parce que c'est une fiction insupportable, parce que les paysages sont beaux, on est tranquille, on sait bien ce qui se passe globalement, quoi. Donc je pense que c'est une tension ou une inquiétude qui m'a accompagnée sur toute la durée d'écriture. D'ailleurs, le passage que Michel a lu tout à l'heure, en fait, il fait suite à une observation des pancartes électorales pour le parti UDC, local, qui sont dans le village, en période d'élection. Peut-être je fais un petit détour, mais je suis en train de lire en ce moment Günther Anders, qui est un intellectuel juif qui a dû fuir l'Allemagne dans les années 30 et qui est parti aux États-Unis. Et dans un entretien, il dit quelque chose qui m'a frappée, c'est que, en fait, rétrospectivement, s'il repense aux années avant le nazisme, à ses années d'étudiant, il se dit que rien, même pas la musique ou la philosophie, aurait eu autant d'importance que d'essayer de dépouiller le parti nazi montant de son pouvoir. Et puis, c'est quelque chose qui me fait vraiment réfléchir, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on devrait consacrer tous nos efforts à, je sais pas, dépouiller de leur pouvoir les multinationales pétrolières ou Trump ou Monsanto. C'est vraiment une question pour moi. Est-ce que c'est lâche ou est-ce que c'est moralement responsable s'enfermer en guillemets dans une roulotte et puis d'écrire le paysage? Où est l'engagement là-dedans? Donc, il y a toujours ce tiraillement. Puis en même temps, parfois, si je me dis que l'ensemble des créations artistiques devenaient purement militantes, et même si c'était pour s'opposer aux mots d'aujourd'hui, en tout cas ce que je considère comme étant des menaces aujourd'hui, ça serait un totalitarisme aussi qui serait inquiétant, parce qu'il n'y aurait plus d'espace pour justement honorer la beauté ou se sentir simplement vivre ou se créer des moments de liberté qui font aussi notre dignité humaine. Donc disons qu'il y avait toujours cette tension-là.
Mais vous vous sentez comme une artiste engagée, où il y a cette volonté qui est dans vos livres ou dans vos travaux?
En fait, je suis inquiète, par exemple, de la montée des extrêmes droites. Je crois que ce qui m'inquiète encore plus, c'est un peu cette notion de groupes sociaux qui sont quand même très, très isolés les uns des autres. Ça m'inquiète de me sentir, je dirais presque pseudo-engagée, parce que dans mon milieu social, avec mes amis, je sais qu'on partage plus ou moins tous les mêmes idées. Ça m'inquiète de me dire que, en parallèle, il coexiste d'autres groupes sociaux qui sont dans des idées radicalement différentes et opposées. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on pourrait, en fait, étendre des échanges entre ces groupes qui se parlent peu. Puis comment on pourrait défaire les packs un peu idéologiques. Je sais pas, moi, si je prends des exemples dans un discours de Marine Le Pen, si elle s'exprime sur le protectionnisme économique, par exemple, pour moi, c'est pas que aberrant, parce qu'en fait, je suis pas non plus pour une disons, un libéralisme économique forcené et puis une concurrence acharnée au niveau mondial, moi je pense que ça a des conséquences sociales dramatiques et environnementales aussi, donc je ne veux pas défendre ça. Là, je sais pas que je suis pro Marine Le Pen, mais là, je serais d'accord avec elle, par exemple.
Mais c'est tout le paradoxe des extrêmes droites qui séduisent parce qu'elles prennent, elles offrent des propositions
des
et des possibilités
qui sont
à
séduisants.
Tout le monde, bien sûr.
Si je prends au niveau UDC, par exemple, je me souviens d'avoir entendu des élus qui parlaient de renforcer en fait l'autonomie de production alimentaire en Suisse. Puis ça aussi, ça peut rejoindre des convictions que j'ai de plus de produire plus local, etc. Donc après, c'est comment, vu que moi, j'adhère pas à ce pack idéologique, comme quoi les valeurs, c'est des questions de nationalité, de sol, de sang, puis de race. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est l'éducation qui fonde des valeurs communes. Et puis, je pense qu'on peut très bien, moi, je me sentirais pas plus proche de quelqu'un parce qu'il est suisse. C'est vraiment plutôt des partages de valeurs qui comptent pour moi. Et puis, je me dis, comment arriver, en fait, à casser un petit peu ça et puis à pouvoir justement étendre ces partages. Je pense que ça demande un gros effort vraiment pour réduire les a priori puis les jugements réciproques, parce qu'il y en a dans tous les sens.
En même temps, je regarde votre pull, on va pas le décrire, peu importe, mais parce qu'il est beau. Et puis je me dis, ce que vous dites là est très beau, parce que vous êtes en train de dire que cette humanité qui était tricotée jusqu'à maintenant, on est en train de la détricoter. Et c'est essayer de retrouver ce qui fait le pull, ce qui fait le tricot, ce qui fait le tissu,
oui,
ce
lien,
qui fait le lien, voilà, ce qui permet de tricoter tous les êtres, les uns avec les autres, quels que soient
même ceux
leur
qui
ne
ressemblent pas, a priori, c'est ça qui est difficile,
leurs idéologies,
qui devient de plus en plus compliqué parce qu'on parce qu'on nous monte aussi les uns contre les autres, et puis ça marche bien.
Oui. Dans le livre, vous parlez d'une presque jalousie éprouvée vis-à-vis du végétal. Ces jours où le vivre ici et aujourd'hui devient écrasant. Vous évoquez par exemple, ce que vous disiez juste à l'instant, mais aussi la marchandisation du monde, etc. Ce lieu, finalement, cette chambre à soi qui est très perméable à l'air du temps, même si vous êtes face à cette nature magnifique et changeante. Expliquez-moi un peu cette jalousie vis-à-vis du végétal.
Cette jalousie, parce que j'observais justement ce système végétal, ces systèmes végétaux, que j'avais de l'admiration pour ça, parce que je trouve que c'est des systèmes qui arrivent à se renouveler parfaitement, qui ne sont pas nuisibles, contrairement à nos modes de vie qui nuisent quand même, et qui s'autodétruisent. Donc, c'était peut-être la jalousie pour cette beauté, puis aussi le fait, ce bon fonctionnement qui marche bien et qui est beau aussi, qui produit de la beauté et qui est apaisant. Et le fait que, justement, l'arbre, par exemple, ce tilleul que je décris souvent, qui est quand même...
Que vous remerciez à la fin.
Oui, parce que c'est vraiment une espèce de force. C'est un tilleul avec un pourtour de tronc très large qui a vraiment une espèce d'ancrage comme ça dans le sol, très puissant. Et puis, en même temps, une aspiration vers le ciel, un déploiement vers le ciel. Et puis, je me dis, c'est fou, j'ai l'impression que cet arbre, on ne peut pas le mettre sous pression, comme on peut mettre un être humain sous pression. Mm-hmm. On ne peut pas le forcer à chercher de l'argent pour payer ses assurances maladie, son logement et puis sa voiture. Un arbre, c'est un arbre. Et puis, il n'est pas manipulable.
J'aimerais aussi ajouter le fait que ce livre, Devenir prêt, c'est aussi un livre sur l'écriture, sur le travail d'un écrivain, le travail en train de se faire. Vous écrivez, d'ailleurs, vous prenez le prétexte de cette autoroute, en fait. Vous vous interrogez sur le fait que jusqu'à la page, je crois, 82, vous n'évoquez pas cette autoroute, ces voitures qui passent, le bruit. Et vous interrogez... écrivez-vous, est-ce recréer toujours, arranger, se constituer un idéal? Est-ce que c'était important que ce livre-là soit un livre où vous expliquez le livre en train de se faire, l'écriture en train de se tricoter, vous disiez, Michel?
Oui, c'est important, peut-être parce qu'il y a une ambivalence justement dans le retrait, puis dans cette notion d'écriture, est-ce que on fabrique quand même quelque chose, on refabrique à partir de la réalité, donc jusqu'à quel point on manipule ça. Puis il y a la tentation, comme si vous voulez, la fenêtre sud, elle donne sur ce pré somptueux avec le tilleul. Et puis au nord, effectivement, il y a une autoroute, un pont d'autoroute, donc c'est quand même plus brutal. Et la tentation, c'est de parler que de la fenêtre sud, quoi. Et puis de créer quelque chose de parfaitement idyllique, et puis créer une fausse réalité, finalement, omettre ce qui est un peu plus inquiétant. Puis en plus, on a quand même une grande tradition d'écriture en Suisse sur la nature, je sais pas, Chappard, Amu, Jacoté, Gustave Roux. Donc, je sais pas que je connaisse à fond ces travaux-là, pas du tout, mais enfin, j'ai quand même conscience qu'il y a un socle, qu'il y a une tradition forte derrière moi. Et puis, je me dis, peut-être la différence, donc maintenant, je m'inscris dans ce travail-là qui ressemble, qui est assez classique, finalement. Monet, quand il peint les nymphéas ou bien la cathédrale de Rouen, c'est aussi ça, c'est observer un même objet à des moments différents de la journée et puis créer une série avec des variations. Donc je m'inscris dans des traditions artistiques anciennes, mais ce qui est peut-être différent maintenant, c'est qu'on ne peut plus voir la nature comme quelque chose d'éternel. Ce qui était apaisant, c'est que l'homme, on mourait, nous on est mortels, mais la nature, elle reprend chaque printemps, quoi. Mmh. Puis là, maintenant, il y a quand même une communauté scientifique qui est unanime pour dire qu'il y a peut-être des changements irréversibles qui sont en train d'arriver. Donc, on peut plus vraiment regarder la nature sans être inquiet. Bon, on peut pas ne pas parler d'autoroute. Donc, oui, pour moi, c'était important de mentionner les deux, mais de jouer quand même avec ça, d'installer sur un certain nombre de pages l'hommage à la beauté, qui est quand même le centre de ce livre, et puis, après un certain nombre de pages, de dire « Eh oh, ben, si jamais, il y a quand même une autoroute juste derrière, quoi. »
Ligne de crête éclaircie. On décèle des nuances, des reliefs sur le tronc du tilleul, ses écritures, ses signatures réticulées, sa barbe apparaissent. Le ciel s'est agrandi, son éclairage concerne maintenant l'intégralité de ses parties visibles, y compris, par des éparpillés, l'arrière-feuillage de l'aune. Le pré est unité diaphane, à sa surface le tilleul, et à sa suite, chênes et frênes, flottent en procession de colosses temporairement exemptés d'ombre et de toute pesanteur. Premier chant d'oiseau, un cri plutôt, celui du rouge-queue. Éclat dans l'aune dont certaines feuilles se sont mises à refléter le jour comme de galants petits miroirs. Bien qu'encore légèrement inférieur en pouvoir magique, le règne terrestre acquiert les toniques nécessaires à la riposte. Le haut du pré a pris de la couleur, roussâtre, ocre timide, et des ombres viennent exister sous les arbres. Ouvrir la porte qui donne à l'est, au-dessus des tuiles luisantes de rosée, le toit sous lequel on a dormi, la noire échine de chaumont, tout en dents de sapin, surmontée d'un vaste dégradé de jaune crème au bleu pastel, griffé d'une diagonale de kérosène rose fluo. Par la cheminée du voisin, une nonchalante volute, les orteils gèlent au fond des bottes. La planète tourne encore une fraction de degré et soudain, ça perce et aboutit dans la roulotte, fusillant les yeux. Un bon soleil, encore froid, qui darde ses rayons comme dans l'imagerie catholique la plus flamboyante et fait scintiller la profusion des gouttes à ras le tapis d'herbe. L'astre s'élève au présent libre. Partout, les rayons réchauffent la terre, en tirent des vapeurs. Quelques points mouches se révèlent au passage, modulant l'heure sur place. Le tilleul est roi, enluminé, vert, rehaussé d'or, affrété pour son voyage du jour. Voilà, c'était le deuxième mouvement Adagio assai du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel. Jean-Yves Flambeau, vous avez, bon, enfin, je veux pas vous embêter avec des détails, enfin, qui n'en sont pas vraiment, mais, et puis un extrait de Devenir prêt d'Antoinette Richner.
Et dans cet extrait, justement, Antoinette Richner, on a vu, on a entendu cette poésie qui est omniprésente dans ces très courts paragraphes. C'était important pour vous, c'était une volonté de faire un livre poétique.
Je ne sais pas si c'était une volonté, mais en tout cas, ça s'est donné dans l'effort d'essayer de restituer ce que je voyais, ce que je sentais. Mmh. Et c'est comme tout le problème de la représentation artistique. Et puis, j'ai eu énormément de plaisir à le faire être dans cette poésie, parce que voilà, rendre touche par touche, ne pas être dans l'image, ne pas être dans la photographie ou la peinture, mais être vraiment dans le langage. Qu'est-ce qui existe comme moyen dans le langage pour restituer quelque chose de visuel? Ouais, c'était un os à ronger au niveau vraiment purement de la création littéraire. C'était un défi. Mais par contre, peut-être la peur que j'aurais pu avoir, que ce soit ennuyeux, en tout cas pour le lecteur, je ne sais pas, c'est à lui de voir, mais pour l'écriture, pour moi, est-ce que ça allait être très répétitif? Puis en fait, non, il se passait vraiment toujours quelque chose. Même dans des mois un peu, ouais, novembre, décembre, quand il n'y avait pas encore la neige, mais qu'il n'y avait plus cette verdure et puis moins d'activité.
Où le ciel était bas.
Ouais, mais les ciels en hiver, ils sont somptueux. Donc en fait, il y avait toujours quelque chose.
Donc ce livre-là, vous avez commencé à l'écrire un 21 juin, vous l'avez terminé un 21 juin. Est-ce que cette année passée devant ce pré vous a changé? On le disait tout à l'heure, vous avez écrit des remerciements intense, vous écrivez « Je remercie intensément le tilleul ». Vous a-t-elle changé cette année face à ce pré?
C'est difficile à dire, mais en tout cas, je pense que la fin du livre et puis la fin de cette année aussi d'expérience, elle devrait plutôt ouvrir que fermer. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été toute cette observation au service d'un objet, d'un objectif qui était d'écrire le livre. Et l'idée, ce serait qu'on puisse se dire, ben tiens, je pourrais aussi observer sans rien en faire, sans être dans ce drillage du résultat et puis de l'objectif. Ben, simplement, je regarde pour ça, pour le bonheur d'être au monde, de voir. Et ça suffit.
La contemplation pure.
Contemplation ou même le temps, en fait, parce qu'on a tous ce problème de temps. Ben, voilà. S'offrir un temps pur et sans objet, c'est des fois important.
Sans rattacher c'est pas un travail, mais enfin cette posture, disons, de méditation et de contemplation à quelconque religion bouddhiste ou autre, peu importe, ou zen. Est-ce qu'à un moment tout de même, vous êtes senti en fusion? Est-ce que vous êtes devenu prêt, Antoinette Richner? Je dis pas tout le temps, parce que ça voudrait dire que vous seriez devenu une sorte de grand sage. Enfin, c'était très difficile, mais est-ce que vous vous êtes senti de temps en temps glisser et devenir prêt?
Si, par moments, je me suis sentie devenir prêt, dans le sens où j'avais l'impression d'une correspondance entre mon état intérieur, l'activité justement d'ordonner les mots, de réfléchir à ça. Enfin, c'est même plus une réflexion à un moment donné, c'est une espèce de travail qui se fait, de rechercher les combinaisons possibles. C'est une sorte d'activité cérébrale comme ça, qui a atteint un niveau où je me reconnaissais dans les végétaux, les animaux qui étaient à l'extérieur.
Telle la fourmi qui fait son ouvrage comme elle doit le faire, sans même y penser.
Je parlais tout à l'heure de l'inquiétude, est-ce que c'est juste de faire ça, est-ce que je suis à la bonne place, mais tout à coup ces questions-là elles tombent parce qu'on sent que oui, on est en train de faire ce qu'il faut faire, et puis il y a quelque chose comme un ordre duquel on fait partie, on est intégré dans cet ordre, et puis c'est quelque chose de beau à ressentir, c'est vrai. Après, la tentation peut-être mystique, je ne l'ai pas eue. Enfin, moi, j'ai eu une éducation quand même très catholique, moi, donc évidemment qu'après, à l'âge de l'adolescence, puis adulte, jeune adulte, j'ai mis beaucoup d'énergie à me détacher de ça, etc. Mais je pense que j'ai quand même gardé peut-être une sorte de spiritualité, dans le sens où quand même, par moments, quand je suis effectivement devant une très belle nature, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser l'écriture comme un acte au moins de reconnaître cette beauté-là, de lui rendre hommage, et puis Gratitude, c'est peut-être trop loin, c'est peut-être aller trop loin.
Mais une élévation, en
oui,
tout cas.
Oui.
Sinon, une gratitude.
Et on sent quand même, je trouve, quand on est très proche de la terre, quand on est en pesanteur ou quand on s'élève, on sent la différence. Et puis, l'idée que ces états-là, on ne peut pas entièrement les maîtriser, qui c'est aussi des états qui passent, qui nous traversent.
Qui sont fugaces.
Ouais. C'est juste, ouais.
Alors moi, mesdames, je vais vous ramener sur la terre avec
les
projets, vos projets, Antoinette Richner. Vous avez choisi, vous avez pu choisir Daniel de Roulet comme mentor grâce, je crois, à un prix du Pourcent culturel Migros pour un roman à venir. Enfin, expliquez-moi déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce roman? Peut-être est-il déjà écrit, peut-être est-il en cours. Et pourquoi avoir choisi Daniel de Roulet?
Alors, c'est pas un prix, en fait. C'est un programme, c'est le Pourcent culturel Migros qui a mis en place une plateforme de mentorat. Donc, on peut postuler avec un projet et demander le mentor ou la mentor de son choix. Et puis, j'ai pensé à Daniel de Roulet parce que je l'avais entendu en débat public et que ce qu'il disait m'intéressait beaucoup et que j'avais l'impression que c'était la personne qui correspondait au type de préoccupation pour effectivement un futur projet de roman.
Mais là, je peux pas,
c'est vraiment tellement le tout début que ça serait compliqué.
Ça serait défloré. Ouais. Et puis ces pièces de guerre en Suisse, alors vous partez à Grenoble.
Oui, alors là, j'ai de la chance parce que j'ai
ça, c'est autre chose.
Ça, c'est tout à fait autre chose. Enfin, disons, thématiquement, c'est aussi lié, mais la forme, c'est vraiment théâtral, ça, ces pièces de guerre en Suisse. Puis donc le titre, ça reprend les fameuses pièces de guerre d'Edward Bond, qui est vraiment un grand classique en littérature dramatique. Et puis c'est une sorte de, comment dire ça, introspection suisse en fait. Qu'est-ce que c'est être suisse?
On reste dans l'introspection,
ça place dans le monde en tant que suisse. Et puis quelle représentation on a des conflits armés, comme on est un pays qui a quand même peu connu la guerre ces dernières centaines d'années. Voilà, donc ça, j'ai eu la chance d'avoir une résidence à Grenoble. C'est donc deux structures qui m'invitent. Troisième Bureau, qui est un collectif autour des écritures dramatiques, et puis le Théâtre National, la scène nationale. Et donc, ils s'associent pour m'inviter. Puis je vais avoir du temps pour pouvoir développer ça. C'est vraiment chouette. Puis sinon, j'ai aussi en ce moment un projet qui est en fait une commande qu'une compagnie de théâtre m'a passée pour adapter un livre pour enfants à la scène. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire aussi. C'est un livre qui s'appelle Le mystérieux chevalier sans nom.
Ah, d'accord.
Et c'est autour de la, donc ça se passe dans le monde de la chevalerie au Moyen-Âge. C'est autour de la question du genre et de, donc c'est une petite fille, la petite fille d'un roi qui parvient par ruse à gagner un tournoi et donc en fait à racheter son droit à disposer d'elle-même et de ne pas être mariée à X, à tel chevalier qui aurait gagné le tournoi. Puis c'est vrai que j'ai du plaisir à faire ça parce que du coup, on n'est pas dans une situation où je dois tout inventer de zéro, tout créer un monde, mais j'ai cette matière qui est le livre et puis je fais plus qu'un travail artisanal pour transposer ça.
Je reviens à Pièces de guerre en Suisse. Vous avez vu Wonderland l'une et l'autre? Non, pas encore?
Non.
Bon, bah écoutez. Non, parce j'ai que le sentiment que la Suisse est en train de se poser pas mal de questions identitaires.
J'ai vu Heimatland.
Oui, alors c'est autre chose là.
Mais il y a aussi quelques questions identitaires. La culpabilité.
Voilà. Oui, c'est ça. Alors c'est un vrai travail sur la culpabilité suisse, sur son rôle dans cette Europe à laquelle elle refuse d'appartenir finalement, tout en y étant. Peu importe, ça n'a strictement rien à voir. C'était je me posais la question, savoir si une curiosité un peu mal placée. En plus, vous répondez non, c'est dommage. Peu importe, Lynn. Vous irez à l'occasion.
Absolument.
Je ne l'ai pas vu non plus. Hein.
Ah, d'accord, on ira ensemble.
Tout va bien. Pas eu le temps encore.
Rendez-vous est pris.
Rendez-vous est pris.
Et puis, l'Institut littéraire de Bienne.
Oui.
Vous continuez à
donc ils viennent de fêter
leurs
10 ans, leur anniversaire. Voilà. Et j'ai contribué à une parution qui sort pour l'anniversaire. Et c'est vraiment le souvenir de très très bonnes années pour moi, ces années d'études à l'Institut littéraire.
Et du coup, vous y animez des ateliers d'écriture?
J'ai pas encore eu l'occasion à l'Institut, mais j'anime pas mal d'ateliers dans divers cadres. Là, le dernier que j'ai animé, c'était à l'ABC à la Chaux-de-Fonds. C'était pour des enfants de 8 à 14 ans. Ouais, très belle salle, très belle programmation. Et puis là, c'était en fait, les enfants sortaient de films d'animation de Robert Desnos. Et puis j'ai travaillé avec eux sur l'imaginaire. À partir de là, et c'était chouette.
Devenir prêt, Édition d'autre part. Merci Antoinette Richner.
Merci à vous.
Je vous en prie. Et puis j'allais dire à bientôt Lynn Lévy, ben, c'est plus qu'à bientôt.
C'est à tout de suite.
C'est 12 minutes.
Voilà, c'est
à
ça.
Peu près. Exact. Vous revenez ton hectare.
Je pars pas. En fait.
Vous ne partez pas. L'antenne est à vous.
Oui.
Merci infiniment. On
merci.
Va, je sais pas si on ira peut-être, oh, on va voir, ça dépend. En même temps, je ne sais pas si je parle toute seule dans ma tête, constatez. Je ne sais pas si Noël véritablement nous y oblige, mais en tout cas, elle met en lumière des musiques magnifiques que nous n'écouterions peut-être pas à d'autres moments, faute d'y penser, comme cette cantate de Bach pour le jour de Noël, Unser Mund sei voll Lachens, ici par le Collegium Vocal de Gand et l'orchestre sous la direction de Philippe Hervé.